que les messages que je partage avec vous lors de ma participation à votre culte, ces temps sont tous tirés de l'épître aux Hébreux. Et plus particulièrement d'un mot, plus exactement un adjectif comparatif, l'adjectif « meilleur ». Ainsi, on a eu l'occasion de s'arrêter sur les thèmes suivants, une meilleure espérance, une meilleure alliance avec de meilleures promesses, ainsi que de meilleurs sacrifices. Et on arrive tout naturellement, en suivant le texte, à de meilleures possessions. Et je vous invite à lire dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10, les versets 32 à 39. Hébreux 10, les versets 32 à 39. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand et douloureux combat, d'une part exposé en spectacle par les opprobres et les tribulations, d'autre part vous rendant solidaire de ceux qui subissaient ce traitement. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie qu'on vous arrache vos biens, sachant que vous aviez des possessions meilleures et permanentes. N'abandonnez donc pas votre assurance qui comporte une grande récompense. Vous avez en effet besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, bien peu, et celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui croient pour sauver leur âme. On a eu l'occasion de voir que cet épître, l'épître aux Hébreux, ses premiers destinataires étaient des Hébreux. Peut-être pas exclusivement des Hébreux, mais majoritairement des Hébreux. C'est-à-dire des Juifs messianiques, comme on dirait aujourd'hui. Des Juifs qui avaient cru que Jésus était leur Messie. Et ces gens étaient confrontés à de la persécution. Et alors qu'ils avaient montré un grand zèle au premier jour de leur nouvelle foi, très certainement qu'ils étaient en perte de vitesse au moment où l'auteur leur adressait cette épître. Mais quelle meilleure méthode pour ranimer la flamme de la foi lorsqu'elle se met à vaciller que de rappeler ce qu'elle avait été au départ. Et c'est exactement la méthode que suit l'auteur de l'épître ici. Il le rappelle comment ils s'étaient convertis en quelque sorte et comment ils avaient vécu ces premiers temps dans la foi, dans leur nouvelle foi. Et il le rappelle quel grand combat ils avaient soutenu. Il le rappelle également, en parlant stéréo là, c'est pas grave. Il le rappelle également comment ils avaient été persécutés et comment ils avaient fait face à cette persécution alors qu'ils y étaient exposés publiquement. Et pour couronner le tout, il le rappelle comment ils avaient été solidaires avec ceux qui étaient persécutés et plus particulièrement avec les prisonniers, sous-entendu pour leur foi, et en acceptant même d'être spoliés de leurs biens. C'était une pratique courante dans l'Empire romain. Il n'était pas rare qu'un condamné soit dépossédé de ses biens. Mais ici, ce qui est particulier, c'est qu'il avait accepté cela avec joie. Bien sûr, ce n'est pas le fait, du moins c'est ce que je pense, ce n'est pas le fait d'avoir été dépossédé de leurs biens qui les rendait joyeux, mais de savoir qu'ils avaient de meilleures possessions, ou selon d'autres traductions, un meilleur bien, un bien meilleur et permanent. Ce bien meilleur étant bien sûr le salut en Jésus-Christ dans sa globalité. Et comme notre texte nous parle à la fois de biens terrestres et de trésors célestes, je vous propose qu'on parle, nous aussi ce matin, à la fois de ces biens terrestres et de ces trésors célestes. Tout d'abord, on aurait tort de penser que notre texte dévalorise les biens terrestres. La preuve en est, c'est que le fait d'en avoir été dépossédé est considéré ici comme une rude épreuve, comme une injustice, comme une persécution. Parce que nos biens terrestres, qu'ils soient limités, mais surtout s'ils sont un peu plus abondants, nous sont quand même bien utiles. Ils nous permettent de vivre plus agréablement et puis de pratiquer aussi de bonnes œuvres. Et je ne vois rien dans l'Écriture qui défendrait à qui que ce soit de chercher à améliorer sa situation d'un point de vue matériel, surtout si elle a besoin d'être améliorée. Il n'y a aucune contre-indication pour autant que nos démarches soient honnêtes et qu'elles ne deviennent pas, qu'elles n'occupent pas une place qu'elles n'ont pas occupée, c'est-à-dire devenir une idolâtrie. Mais on en reparlera donc tout à l'heure. Mais je vous rassure, en disant cela, je ne fais aucune concession à ce qu'on appelle l'évangile de prospérité. Cette théorie qui prétend que lorsqu'on a la foi et qu'on applique les bonnes formules, on est forcément riche et en bonne santé. Et s'il y a à se distancer de cet évangile, pour autant que ça puisse porter le nom d'évangile, il y a tout autant à se distancer, je pense, de ce qu'on pourrait appeler l'évangile de pauvreté, c'est-à-dire cette idée que moins on en a sur la terre et plus on en a dans le ciel. Je ne vois rien qui confirme cela dans l'Écriture. Bien entendu, certes, Dieu prend soin des pauvres et de ceux qui renoncent ou qui perdent leurs biens à cause de leur foi en Christ. Certains textes laissent entendre qu'ils auront une grande récompense, mais ce n'est pas une invitation à cultiver la pauvreté. Mais vous me direz peut-être, oui, mais Jésus a quand même dit qu'il était difficile pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Il a même fait une comparaison en disant, c'est comme si on essayait de faire passer un chameau par le trou d'une aiguille. Mais ce qui est mis en cause ici, ce ne sont pas les richesses en elles-mêmes, mais beaucoup plus le rapport qui est entretenu avec les richesses. Dans un de ses sermons, saint Augustin, alors dans un contexte, il faut le dire, différent de celui qu'on aborde ce matin, mais Augustin disait ceci, « Veux-tu savoir qu'il est bon de posséder de l'or ? Les hommes de bien en ont. » Alors, si vous n'en avez pas, ça ne veut pas encore dire que vous n'êtes pas un homme ou une femme de bien, mais il n'y a aucun mal, selon l'Écriture, à posséder quelques biens et à être à l'aise de ce point de vue-là. Maintenant, si notre texte, vous l'avez compris, ne dit rien de négatif par rapport aux biens terrestres, il dit quand même qu'il existe des biens meilleurs que ceux-ci, et ces biens meilleurs, ce bien meilleur est permanent, c'est, comme je le disais tout à l'heure, le salut en Jésus, dans toute sa globalité, avec ses aspects déjà présents pour notre vie, et bien sûr ses aspects aussi futurs. Et ce bien meilleur, vous le comprenez, n'est pas bien sûr un bien matériel. Ça appartient à un autre ordre que le matériel, et par conséquent n'est pas soumis aux mêmes limites que les biens matériels. Et je vous propose, dans la suite justement de ce message, de parler un peu de ces limites de nos biens matériels. Et j'aimerais qu'on puisse s'arrêter sur trois d'entre elles en particulier. C'est vrai que si nos biens terrestres sont bons à prendre, ils ont leurs limites. Et le premier des problèmes qu'on peut rencontrer avec cela, c'est qu'ils peuvent justement occuper une place qu'ils n'ont pas à occuper dans notre vie. C'est-à-dire qu'ils peuvent devenir une certaine forme d'idolâtrie, ils peuvent devenir une idole. Et s'ils occupent cette place dans notre vie, alors il faut savoir une chose, c'est que jamais aucune idole n'a pu satisfaire pleinement l'homme dans son être intérieur. Et du moment où ces biens deviennent une idole, alors ils deviendront aussi pour nous une cause de soucis, et puis on cherchera à en accumuler toujours davantage. Et vouloir accumuler toujours davantage de biens, ça porte un nom, ça s'appelle de la cupidité. Et la cupidité est dénoncée dans l'Écriture comme étant une idolâtrie. Dans Colossiens 3:5, il est dit ceci, « Faites donc mourir vos membres terrestres, l'inconduite, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. » Alors, ne voyez en cela aucune contradiction avec ce que je disais tout à l'heure en ce qui concerne d'améliorer sa situation, principalement si elle a besoin d'être améliorée. Il y a une grande différence entre chercher à améliorer sa situation légitimement et être esclave de cette idolâtrie qu'est la cupidité. Et l'Ecclésiaste dit ceci, il dit ceci, « Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. » Celui qui aime l'argent, Ecclésiaste 5:9, « Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. » On a demandé un jour à un homme très riche combien il fallait d'argent à un homme pour être heureux. Il a répondu « juste un peu plus que ce qu'il a déjà ». Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Alors, si il se trouve qu'on est esclave de cette idolâtrie, je ne vois qu'une solution. Appliquer à nos vies ce que disait Martin Luther. Du moins, je crois que c'est lui qui disait cela, pas tout à fait sûr, mais peu importe, la citation mérite d'être retenue. Il disait ceci, « L'homme a besoin de se convertir à trois niveaux, au niveau du cœur, au niveau de la tête et au niveau du porte-monnaie. » Et si nous sommes déjà convertis au niveau du cœur et au niveau de la tête, n'hésitons pas à l'être encore au niveau du porte-monnaie. Être converti au niveau du porte-monnaie ne signifie pas qu'il faille abandonner tous ses biens. Peut-être vous me direz, oui, mais c'est quand même ce que Jésus a dit à un jeune homme, le jeune homme riche. C'est vrai, il lui a dit, vends tous tes biens et distribue-les aux pauvres. Mais il n'a pas dit cela à tout le monde, c'était un cas particulier. Alors c'est vrai que ça peut se reproduire, c'est pas impossible, mais ce n'est pas forcément un commandement qui est à généraliser. Ou alors on dira, les premiers chrétiens vendaient tous leurs biens, ils mettaient tout en commun, et puis voilà. Mais ce n'est pas forcément le modèle qui est à reproduire pour dans toute l'histoire de l'Église. Être converti du porte-monnaie signifie bien gérer ses affaires en y intégrant une dimension de générosité. Et la générosité est l'antidote à l'avarice et à la cupidité. Donc, premier problème qu'on peut rencontrer avec nos biens, comme je le disais, ils sont bons à prendre, mais ils peuvent être un piège, et l'un de ces pièges est l'idolâtrie, qu'ils occupent une place qu'ils n'ont pas à occuper. Et puis, il y a une deuxième limite auxquelles sont confrontés nos biens terrestres, c'est qu'en fait, leur valeur n'est pas forcément stable. Certes, il y a des valeurs qui sont plus stables que d'autres. On parle de l'or, par exemple, qui est une valeur refuge, et puis voilà, qui conserve sa valeur malgré des situations parfois économiques difficiles. Mais pour ceux qui possèdent de l'or, le risque de se le faire voler existe. Ou j'ai entendu dire qu'en Suisse, plusieurs possédants de l'or le cachaient, par exemple, dans leur jardin, dans un endroit enterré. Mais si arrive une catastrophe comme à Blatten, bien les récupérer son or devient une aventure plutôt périlleuse. Comme quoi, il n'y a pas de bien qui puisse vraiment être assuré de manière absolue. Ce qu'on a, on peut le perdre. Et puis, c'est vrai que la valeur que représente tel bien peut fluctuer d'un moment à l'autre. On raconte l'histoire d'une femme qui, en Allemagne, durant l'entre-deux-guerres, alors que l'inflation atteignait des niveaux records, est partie en course avec une brouette remplie de billets de banque. Et ces billets avaient tellement peu de valeur qu'elle n'a pas du tout eu le souci à parquer sa brouette à un endroit et puis de s'absenter quelques instants avant de revenir pour continuer son chemin. Elle était absolument certaine qu'elle retrouverait tous ses billets. Alors elle s'est absentée quelques instants. Quand elle est revenue, tous les billets étaient là. Mais la brouette avait disparu. Comme quoi, voyez, la valeur des choses peut fluctuer. J'ai entendu l'histoire d'un homme qui s'est rendu chez son médecin pour un bilan de santé complet. Et après l'avoir ausculté, le médecin lui a dit ceci: « Monsieur, vous êtes solide comme un dollar. » L'homme lui a répondu: « Ben, à partir de maintenant, je vais commencer à me faire du souci. » Parce que c'est vrai que voilà, ce qui a de la valeur aujourd'hui peut en perdre, ce qui n'en a pas peut en prendre. Donc, mettre trop de confiance dans les biens matériels, c'est quand même prendre certains risques. La crise du Covid, dans ses premiers jours, nous a enseigné que le papier WC pouvait devenir un bien très très recherché. Comme quoi, les biens, même si c'est vrai, ça offre une certaine sécurité, mais ça ne sera jamais une sécurité complète, une sécurité totale. Donc il y a une instabilité. Et puis, le troisième élément que je voulais voir, c'est que ces biens ne nous servent strictement à rien en vue de l'éternité. Lorsqu'on quitte ce monde, on n'emporte rien avec nous, et ce qu'on a accumulé n'a aucune valeur en perspective de l'éternité. Certes, c'est toujours bien de bien gérer ses affaires, parce que ça fait un héritage pour les suivants, mais un jour, il faut se faire à l'idée qu'on quitte ce qu'on possède, et ça, c'est la règle pour tout le monde. Les pharaons d'Égypte étaient enterrés avec leurs richesses, parce qu'on pensait qu'elles leur étaient utiles dans le monde futur, le monde à venir. Eh bien, elles n'ont servi à rien, sinon à enrichir les pilleurs de tombes. C'est à cela qu'elles ont servi. Donc, on comprend à partir de là, il n'est pas étonnant que l'Épître aux Hébreux nous parle du salut en Jésus-Christ comme d'un bien, comme d'une valeur meilleure et permanente. Parce que ce bien-là ne fluctue pas, et puis il est éternel, on ne le quitte pas. Et le point culminant du salut en Christ, c'est bien sûr l'accès à la présence de Dieu. Et cet accès nous est déjà possible dans cette vie présente, mais le sera encore dans une dimension infiniment plus grande dans l'éternité, lorsque Dieu sera tout en tous. Et quelle que soit notre situation dans le monde présent, il ne faut jamais oublier l'éternité. C'est un point essentiel de notre foi. Parmi les auteurs qui ont écrit sur ces questions de l'éternité, on trouve un puritain du XVIIe siècle qui s'appelait Richard Baxter. Ce Richard Baxter était un pasteur anglais qui, alors qu'il avait environ à peine 30 ans, était parti en voyage avec seulement sa Bible avec lui, et puis il est tombé gravement malade. Tellement gravement qu'il n'était pas certain, il ne savait pas s'il allait mourir ou vivre. Et pendant ce temps, où il était limité dans ses possibilités d'action, il a écrit un livre qui s'appelle « Le repos éternel des saints ». Et dans ce livre, il dira qu'avoir fixé ses pensées sur la destination céleste des saints, lui a apporté plus de bienfaits que toutes les études qu'il a réalisées dans sa vie. Comme quoi, avoir cette perspective de l'éternité nous est déjà très utile dans notre vie présente. Il y a un vieux chant, peut-être vous connaissez, qui s'appelle « Compte les bienfaits de Dieu ». Et dans un de ses couplets, il dit ceci, « Si tu perds dans le voyage plus d'un cher et doux trésor », alors ça parle peut-être plus de relations humaines, on est d'accord, mais « Si tu perds dans le voyage plus d'un cher et doux trésor, pense au céleste héritage qui là-haut te reste encore. » Alors ça, c'est une bonne manière de vivre la vie présente, la vivre pleinement présente, mais avec cette perspective, cette pensée de l'éternité, parce que nous possédons en Jésus-Christ de meilleurs biens, le salut et la vie éternelle. Alors, c'est sans doute cette pensée du salut et de la vie éternelle qui habitait le cœur des Hébreux, de ces Hébreux auxquels l'auteur s'adressait dans notre épître. Et c'est très certainement cette conviction qui leur avait permis d'affronter les épreuves qu'ils ont eu à affronter, notamment cette épreuve d'être dépossédés de tous leurs biens, mais ils ont accepté cela avec joie, parce qu'ils savaient qu'ils avaient de meilleures possessions, des possessions meilleures et permanentes, le salut en Jésus et la vie éternelle. Amen.